grand témoin. Bonjour et bon dimanche chez vous, grand témoin. Le plaisir de vous faire découvrir aujourd'hui Paul Médo en Ferré. Il est opérateur économique et un des organisateurs de la marche des chrétiens qui avait été réprimée en 1992 sous le régime du maréchal Mobutu. Comme vous le savez, ce 16 février 2015, on va commémorer le 23e anniversaire de cette marche des chrétiens. Vous allez bien, monsieur Médo?
Je vais très bien, madame, merci.
Alors, avant de parler de cette marche des chrétiens qui avait été réprimé dans le sang, il faut le dire, hein, en 1992. On va faire une petite biographie de votre personne. On va parler de votre enfance. Vous êtes né à Kinshasa?
Oui, je suis né à Kinshasa en 1956, exactement le 16 juin.
Et c'est à Kinshasa où vous avez grandi?
Oui, à Kinshasa, j'ai grandi principalement dans la commune de Bandalungwa. Et c'est là aussi que j'ai fait mes études primaires à l'école catholique Saint-Cassien.
Secondaire aussi?
Non, le secondaire, j'ai fait les humanités techniques à l'Institut technique et industriel de la Gombe, et là j'ai fait l'option électricité industrielle pour faire ensuite l'électronique à l'ISTA et aller parachever une formation en aviation, et j'ai obtenu ma licence en pilote privé.
Vous êtes licencié en pilotage?
En pilotage, absolument.
Pilotage.
Ouais.
Pourquoi vous ajoutez privé?
Privé parce que j'ai une... Je ne suis pas obligé de me soumettre dans un contrat pour faire un pilote de ligne à temps plein. C'est-à-dire qu'on peut vous prendre en location, vous louez l'avion, vous faites la destination, vous revenez. Comme en d'autres termes, on appelle les taxis aériens.
Vous êtes pilote donc?
Oui, absolument.
Vous avez déjà piloté des avions?
Plusieurs fois, mais malheureusement, j'ai arrêté en 1993 et je ne mérite vraiment pas faire beaucoup
de raisons. Pour des raisons personnelles?
Personnelles, pas vraiment, mais beaucoup de raisons, quoi.
Dites-nous, vous avez grandi dans quelles conditions?
Dans de super conditions, vous savez, à l'époque, tout parent qui travaillait avait son salaire, il arrivait à assumer les besoins de ses enfants. Donc, dans une famille modeste, donc il n'y avait pas beaucoup de choses à ce côté-là, quoi, socialement parlant.
Et vous étiez quel genre d'enfant?
Trop turbulent. Surtout quand je suis arrivé en cycle d'orientation, il était rare que je ne sois pas arrêté après un mois par la police.
Arrêté?
Oui, oui, parce que je me battais beaucoup.
Mais vous étiez mineur, vous étiez encore enfant.
Je me battais beaucoup, le comble de ça, c'est parce que, bon, c'était l'époque, quoi. Ou vous vous défendez, vous vous battez, et on vous respecte. Sinon, alors, on ne vous respecte pas et vous faites écraser, quoi.
Donc, vous en avez fait voir de toutes les couleurs à vos parents?
Ma mère me supportait, mais c'est le papa qui était un peu fatigué de moi. Mm-hmm. Mais ça allait.
Parce que maman était là.
Oui, elle était là derrière.
Pour faire votre avocate.
Ouais, absolument, quoi. Et le papa, d'une manière, je disais, bon, je suis fatigué de cet enfant, et voilà.
Vous êtes fils aîné ou vous aviez des grands frères? Vous avez des grands
frères?
Pas
du tout. Je suis le septième d'une famille de 11 enfants, 4 filles et 7 garçons, dont moi je suis le septième, et nous tombons tous en vie. Et voilà, ma mère vit toujours, mais c'est mon père qui est décédé il y a au moins 20 ans.
Mais qu'est-ce qui expliquait le fait que vous soyez très turbulent, tout le temps arrêté? C'était votre environnement ou bien les amis que vous fréquentiez?
Vous savez, aujourd'hui, si vous voulez que j'ouvre une parenthèse, on parle des Koulouna, mais à l'époque, les phénomènes existaient aussi, mais c'était des petits gangs. C'était de petits gangs comme ça où, au niveau des écoles, les uns voulaient dominer les autres. C'était pas vraiment des bagarres rangées, mais j'étais quelqu'un qui n'accepte jamais, qui ne se laissait pas faire, voilà. Donc vous levez le petit doigt, moi je lève la main. Malheureusement, c'était comme ça. Mais le paradoxe, j'étais quand même un brillant étudiant.
Quel est le souvenir qui vous a le plus marqué pendant votre enfance?
Bon, je crois que je ne dirais pas que c'était mauvais souvenir, hein, mais bon, particulièrement ce qui me faisait rire quand on m'amenait, je ne sais pas si vous connaissez bien Kitambo Magasin.
Oui,
avant d'y arriver, il y avait un camp là qui existe toujours, mais aujourd'hui c'est méconnaissable. On appelle ça camp GD, gendarmerie, parce qu'à l'époque il y avait la police et la gendarmerie, ensuite l'armée. Et bien, comme moi, je devais chaque fois m'arrêter au centre commercial Kintambo pour aller à mon cycle d'orientation qui était la montagne, très souvent, avec des jeunes d'autres quartiers de Kintambo, moi, comme j'ai grandi à Banda, c'est là que souvent il y avait la bagarre. Et quand on m'amenait au camp gendarmerie de Kintambo, ils me regardaient, disaient « Encore toi, encore ici !» Donc, ça, c'est, je peux dire que ça...
C'était une habitude.
Bon, tous les trois mois, un mois, on ne peut pas dire que c'est une habitude, ça dépend.
Tous les trois mois, mais ça fait beaucoup quand même.
Oui, bon, c'était la jeunesse.
Alors, marié, père de combien d'enfants?
Marié, père de 4 enfants, trois garçons et une fille.
J'espère que parmi vos enfants, il n'y en a pas un qui est comme vous quand vous étiez jeune, quoi, comme vous étiez enfant.
Non, pas du tout. C'est des enfants qui sont très bien, qui grandissent très bien. Bon, le comble, c'est que je n'ai pas avec moi ici, parce qu'à un moment donné, on était bien obligés de faire un peu l'exil. Donc, je les ai mis en sécurité. Moi, j'ai refusé l'exil. Je suis revenu ici. Ils sont présents, moi, pour le moment, à Londres. Mais moi, je vis ici.
Monsieur Paul Mido, qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la vie?
Ce que je n'aime pas dans la vie, l'injustice, les mensonges.
C'est quoi votre plat préféré?
Tout ce qui est salade et tout ce qui est
crudité.
Voilà, crudité. J'aime bien la viande grillée, le poisson grillé, voilà, ou le morceau de poulet sans peau.
On va parler de votre expérience professionnelle. Vous êtes pilote de formation?
Pilote de formation, électronicien de formation, électricien de formation, parce que j'ai maîtrisé tous ces domaines.
C'était quoi votre premier métier après avoir obtenu votre licence?
Mon premier métier, c'était, si paradoxal ça puisse être, je me suis lancé un peu dans ce qu'on appelle l'antiquité. J'ai fait la chasse de quelques objets, au fait, j'ai acheté les objets, j'ai vendu, et ça m'a rapporté de l'argent, et j'ai monté ma première société.
À Kinshasa,
à l'Institut des Musées Nationaux du Congo à l'époque. Ça m'a permis d'avoir de l'argent, j'ai monté ma petite entreprise, et en attendant, je faisais les pilotages au même moment. Et en 1993, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis obligé d'arrêter les pilotages, et je me suis focalisé sur mon activité. Et donc,
d'antiquaire ou une autre activité?
Non, mes activités de restauration, quoi. Donc, au fait, je suis un restaurateur et ça fait 27 ans que je suis là-dedans. Et c'est comme ça que, d'ailleurs, à ce titre-là, que je suis le vice-président national de l'ORECA. ORECA, c'est l'hôtel, restaurant et café. Donc, c'est moi le vice-président. Donc, je m'intéresse plus à ça et pas à autre chose. Mais, par passion, je suis toujours dans les antiquités, c'est-à-dire quand je voyage, je visite tous les grands musées du monde, c'est mon faible. Je suis en même temps collectionneur et j'aime aussi écrire. J'ai déjà sorti un livre il y a 4 ans, ça s'appelle la RDC au temps de la colonie. C'était pour faire un peu la différence entre les Congos de l'indépendance, les années de la colonisation et les Congos actuels. Mais ça, c'est un livre qui était basé spécialement sur des collections, des photos inédites que je dispose sur la colonisation, et j'ai fait le parallélisme pour aider un peu aussi la jeunesse à comprendre ce qui s'est passé dans l'époque. Ce livre est sorti depuis 4 ans, 300 exemplaires, tout ça a été vendu, et maintenant j'ai terminé le deuxième livre, mais là qui parle plus de moi-même, c'est-à-dire que Makalabanda, son dialecte songé, ça veut dire tout simplement la marche des sandales, mais c'est pas ma dialecte, moi je suis Yandi. Mais voilà, j'ai préféré ce titre-là. Et là, ça va sortir bientôt. C'est beaucoup plus pour parler de moi-même, de ma collection et de mon parcours.
Vous êtes dans la restauration, mais vous allez nous expliquer comment vous vous êtes retrouvé dedans. Passons, je signale que c'est vous le propriétaire du restaurant L'Orangerie sur le boulevard du 30 juin. Pour ceux qui connaissent Kinshasa, qu'est-ce qui vous a attiré dans la restauration alors que vous étiez dans la technique, pratiquement?
Je suis quelqu'un qui a beaucoup de goût d'aventure. En fait, c'est l'aventure. Bon, je me dis, je vais essayer ça, pourquoi pas. Et voilà, je me suis lancé là-dedans et puis bon, ça a marché. Ça a marché et puis voilà, ça
pique. Il n'y a pas quelqu'un qui vous a intéressé, pas du tout?
Non, on était avec deux amis, donc on était au nombre de trois. On a dit, on va faire notre business, on a commencé le business et puis voilà, ça a marché. Mais comme on dit, toucher même un arôme, l'important c'était de travailler et d'avoir de l'argent. On a travaillé et effectivement, on a eu de l'argent.
Donc aujourd'hui, vous êtes vraiment focalisé dans la restauration.
Je suis focalisé dans la restauration, voilà.
L'antiquité, vous avez laissé?
Je ne dirais pas que j'ai laissé. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis collectionneur. Je passe mon temps à visiter les musées du monde, à visiter les collections privées. Et voilà quoi.
Mais vous avez le temps de concilier les deux, la restauration, voyager à tout moment pour collectionner les objets et venir revendre?
Non, vendre, je ne revends plus parce que les musées nationaux ne fonctionnent plus, n'achètent plus les objets depuis longtemps, quoi. Mais bon, à l'extérieur, il y a toujours moyen de visiter le musée, il y a toujours moyen de visiter les collectionneurs.
Ah, vous vous limitez à visiter
les musées, visiter les collectionneurs, et vendre, ça ne m'intéresse pas parce que j'en ai pas vraiment envie, quoi. Donc, je fais ma collection, j'ai garde pour probablement mes enfants, mais moi-même, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui je vais vendre. Je n'ai pas l'intérêt.
Est-ce que vos enfants aiment ce que vous faites?
Ils m'apprécient beaucoup comme père, ils sont fiers de moi.
Alors, on va revenir un peu sur votre métier de pilote. C'est un métier passionnant?
C'est très passionnant dans la mesure où beaucoup de passagers ne réalisent pas, par exemple, que l'avion décolle tout seul. Et c'est la partie la plus agréable là-bas, c'est l'atterrissage, et surtout quand on a réussi l'atterrissage, parce que c'est là que la tête, les instruments et surtout les réflexes doivent travailler pour éviter qu'on pique des nez ou qu'on tape les trains arrière de l'avion, que les passagers sentent qu'il y a l'atterrissage en douceur.
La première fois que vous avez piloté un avion, comment vous vous êtes senti?
D'abord, le sentiment de dire que victoire, ou là, j'ai gagné. Parce qu'au fait, quand on vous lâche et vous faites les tours qu'on vous demande de faire en respectant ce qu'on appelle l'intégration des pistes, les angles des pistes pour atterrir. Et une fois que vous atterrissez, vous amenez l'avion au pied du parking. Là, il y a un comité qui vous attend pour vous baptiser, pour vous dire que vous êtes capable
de piloter
seul. Et les plus marrants, j'ai toujours l'image dans la tête, c'est que même des gens qui nettoient l'avion, des gens qui mettent des lèvres, ont le droit de vous taper, de vous jeter de l'eau. Ce moment-là, vous ne pouvez rien faire. Ça s'appelle
lorsque vous atterrissez.
Affirmatif. À l'arrivée, vous arrivez, comme ça, on vous accueille, bravo, on vous ouvre les bouteilles, qu'on
Mais
vous jette.
Mais il n'y a pas des idées qui vous traversent l'esprit? Est-ce que je vais réussir?
J'ai toujours crié en quelque chose. Quand je fais quelque chose, je ne dirais pas toutes, mais pour la plupart, je suis toujours arrivé à bout, j'ai toujours réussi. Parce que j'ai la volonté d'y arriver et j'y crois. Et j'y réfléchis avant de faire quelque chose aussi.
Vous n'aimez pas l'échec dans votre vie?
Non, pas du tout. Normalement, l'échec doit être banni dans l'esprit de quiconque. Toute personne dans sa vie doit bannir l'échec. C'est pas permis, c'est comme la pauvreté, c'est pas permis. On doit éviter ça. Il faut se battre pour y arriver. Parce qu'on dit toujours que la victoire arrive toujours à ceux qui ont persévéré.
Alors, on va souffler un peu avant de passer à notre deuxième partie de l'émission consacrée à la marche des chrétiens, dont vous êtes un des organisateurs. Comment vous passez vos moments de détente?
Oh, la lecture, un peu de la télévision, sinon de la musique, de contre-musique.
Musique et contre-musique?
Contre-musique, la musique classique de Cowboy.
Ah, contre-musique. Yeah. Ah, ok. Ce genre blues.
Oui, exactement, ça j'adore. Uh-huh. Ouais, Kenny Rogers, c'est tout ça, j'adore.
C'est le style, la mélodie que vous
les
appréciez?
Les tout ça va ensemble, parce que c'est quelque chose aussi comme musique douce, assez bien arrangée. Il y a des moments forts, il y a des moments faibles, donc le tout est condensé là-dedans, quoi. Uh-huh. Il y a moyen d'écouter des airs et des airs sans vous faire mal à l'oreille ou que ce soit.
Ça vous inspire parfois?
Si. Musique douce, l'eau et les plantes. Si je me mets devant l'eau, je contemple l'eau, ça me donne beaucoup des idées, les plantes aussi.
N'importe quelle plante?
Les bonnes fleurs, les belles fleurs et tout ça, voilà.
Et donc ça vous ferait plaisir en ce moment si on vous mettait une chanson de Kenny Rogers?
Ah oui.
Quelle que soit par exemple, n'importe quelle chanson, n'importe vous quelle. Avez une préférence pour un titre particulier?
N'importe, sinon si on dit Oh Bolido, nobody painted, nobody caught, nobody go. You gamble, c'est le type, c'est gamble.
Dieudonné, est-ce que cette chanson te dit quelque chose?
Ou alors Lady, je ne sais pas si là ça.
Lady de Kenny Rogers.
Kenny Rogers.
Est-ce que tu as la chanson Lady de Kenny Rogers? D'accord, alors Dieudonné va essayer de retrouver la chanson pour votre plaisir et pour le plaisir de tous les auditeurs des Radio Capi qui nous suivent en ce moment. On se retrouve juste après cette chanson pour la suite de notre entretien.
I'm your knight in shining armor, and I love you. You have made me what I am, and I am yours. My love, there's so many ways I want to say I love you. Let me hold you in my arms forevermore. You have gone and made me such a fool. I'm so lost lady. For so many years I thought I'd never find you. You have come into my life and made me whole. Forever, let me wait to see you each and every morning. Let me hear you whisper softly in my ear. In my eyes, I see no one else but you. There's no other love like I love.
De leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune racontée par ces acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kéline Kouté sur Radio Okapi.
Un grand témoin, vous fait découvrir aujourd'hui Paul Mido Enferré. Je ne sais pas si je prononce bien votre nom, c'est Enferré.
Enferré.
On dirait que ce n'est pas un nom congolais. Hein?
Non, c'est congolais, c'est Yandi.
Yandi, est-ce une signification particulière, Enferré?
Honnêtement, ça doit avoir une signification, mais que j'ignore.
Vous n'avez jamais cherché à savoir?
Non, parce que on disait que c'est la jeune fille. Bon, c'est, au fait, c'est le nom de ma mère que j'ai pris quand on a changé le nom d'authenticité. De sa jeune fille, comme on dit pendant plein galoulage dans les Kassai et tout ça, mais je ne peux pas vérifier la véridicité de tout ça, quoi.
Paul Mido, vous êtes un des organisateurs de la marche des chrétiens qui avait eu lieu en 1992 à Kinshasa. Cette marche avait été réprimée ce lundi 16 février 2015. On commémore le 23e anniversaire de cette marche des chrétiens. Vous allez nous raconter, bon, c'est un chrétien, c'est que vous avez vécu lors de cette marche. Vous êtes un des organisateurs, je l'ai dit, que c'était à la base de cette marche. Pourquoi les chrétiens avaient marché ce jour? Là, ce 16 février.
On a marché cette date-là parce que on devait absolument obtenir l'ouverture de la conférence nationale souveraine. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, la conférence nationale souveraine a été fermée d'après les termes de M. Ngouns Karibonde à l'époque, ministre, premier ministre, je veux dire, avec force. Alors que ces travaux de la conférence nationale souveraine, c'est toute la nation qui avait besoin de cela. Donc, au fait, c'est le moment où la nation entière n'est jurée que par les travaux de la conférence nationale souveraine pour faire une évaluation sans complaisance, mais avec beaucoup de tolérance, la vérité et la justice, les causes du succès ainsi que des échecs pour enfin arriver à mieux baliser l'avenir et débâtir un nouveau projet de société. Ben voilà qu'au moment toute la nation entière comptait sur ce forum-là par la volonté de Mobutu, Monsieur Ngouni Kalibonde, alors comme je disais Premier ministre de l'époque, va fermer la conférence avec force. Alors et bien entendu, ça en est suivi d'une date importante de 7 jours, du 20 au 27 janvier de la même année, donc 1992. Nos archevêques, évêques et membres du comité permanent de la conférence épiscopale d'Israël à l'époque, c'est l'actuel SENCO, qui se sont réunis en session ordinaire ici à Kinshasa. Et à la sortie de leurs travaux, ils affirmaient que la conférence nationale souveraine était incontournable. À partir de ce moment-là, l'appel fut lancé par les conseils écuméniques des églises à des abbés de Kinshasa sous forme d'interpellation. Les abbés ont eu une célébration des messes, nous ont interpellés.
On a interpellé les chrétiens.
On a interpellé les laïcs.
Les laïcs, quand
voilà, en disant, et vous là, qu'est-ce que vous faites de tout ça? Donc voilà un message, comment c'est venu du sommet, jusque à la base, un message d'interpellation. En tant que laïc, et c'est comme ça qu'on a réfléchi là-dessus. On était à la messe, c'était à cathédrale Notre-Dame. On a commencé à réfléchir, on a dit, voilà, on nous a interpellés. Bon, nous, on devait agir. Et c'est comme ça que l'idée viendra de créer ce petit noyau qu'on a appelé le comité laïque de coordination. Au départ, c'est un petit noyau à peu près de 9 personnes. Et ce petit noyau s'est réunissé rapidement, jour et nuit. Et on a lancé l'idée de faire la
conférence. Donc, vous faisiez partie de ce petit noyau.
Je faisais partie de ces noyaux. Là, si vous voulez que je cite les noms, il y avait Pierre Lumbi et François Candolo, c'est les deux qui ont signé le tout premier appel à cette marche-là. Il y avait Marie-Thérèse Moulanga, Marie Boupa, le prof Kabemba, le frère Julien, Benjamin Bouanakabwe et moi-même. Bref, après, le cercle s'est élargi, mais au départ, on n'était même pas 10, je crois 9.
Et c'est vous qui faisiez partie de ce noyau-là qui devriez sensibiliser les chrétiens.
Oui, on a fait partie de ces noyaux qui a tout organisé. Tout organisé.
Quand vous dites tout organisé, ça veut dire quoi concrètement?
Organiser la marche, préparer l'appel qui a été signé. Trouver les moyens pour communiquer avec la base et tout l'ensemble du pays. Donc on a mis tout le moyen, la presse écrite ainsi que les tracts. On devait distribuer des tracts et jeter ça. On devait convaincre la presse. À l'époque, c'était les potentiels ainsi que les phares qui nous ont beaucoup aidés, qui mettaient chaque fois nos communiqués à la presse. On s'est réunis et puis on a trouvé des stratégies. Et c'est là que les plus grands apports du groupe Amos, qui était piloté par l'abbé José Mpundu et puis le procès Thierry Landou, nous a été utile pour arriver à faire passer les messages dans les canaux des églises et surtout nous aider à la non-violence évangélique. Parce que quand nous avons créé ces comités, on avait quand même notre philosophie. Notre philosophie était basée sur la non-violence évangélique et elle s'est située en dehors de toute politique partisane. Donc, mais on ne maîtrisait pas la non-violence. Et c'est là que l'abbé José Pundu.
Mais on avait l'impression quand même que l'Église avait quand même un penchant.
Je crois que beaucoup de gens se trompent. C'est pour cela qu'il est important de rétablir l'histoire. Moi, je vous dirais, en ce moment ici, et même à cette époque-là, je peux dire que l'Église n'a jamais été d'accord pour cette marche. On les a signifiés sous plusieurs manières. Et la preuve, c'est qu'il n'y a aucun. Alors quand j'ai dit ok, j'insiste, il n'y a aucun leader politique, moi encore religieux, a été membre de cette commission ou de ces comités ou a participé à cette marche. Aucun.
Mais lorsque les archevêques ont interpellé les laïcs pour vous dire, et vous, qu'est-ce que vous faites par rapport à cette situation? C'était pour que vous, laïcs, vous fassiez quoi?
Mais ça c'est la question qu'il faut leur poser, mais tout est dedans, sauf fallait faire une marche. Sauf fallait se constituer un comité et marcher, parce que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons jamais été soutenus. Nous n'avons jamais été soutenus. Regarde, je vous donne un exemple. L'année dernière, on devait commémorer cette date-là. On a voulu que, après la messe, que le maximum des abbés et des curés nous rejoignent à Notre-Dame de Fatima, où on devait avoir l'Eucharistie suivie d'une conférence de presse. Eh bien, je vous dirais qu'à la dernière minute, il semblerait qu'un mot d'ordre est venu, qu'il n'y a aucune activité pour le 16 février, à l'exception, pendant la messe, de faire des intentions. Vous comprenez quoi là, par là? Donc, nous ne pouvons pas dire, et il n'a jamais été question, cette marche-là, c'était l'affaire de la base. Ce n'était pas l'affaire de nos leaders politiques. Moi encore religieux, et là j'insiste. Et je mets quiconque au défi. Il n'y avait pas un seul. Alors, pas un seul. Et d'ailleurs, on n'aime pas de cette date jusqu'aujourd'hui, jusqu'au moment où on vous parle.
Qui n'aime pas de cette date?
Mais que ce soit les autorités politiques comme les autorités religieuses. Personne n'aime cette date. Parce que j'estime qu'ils ont pensé que l'initiative est venant de la base. Cette marche, c'est l'affaire de nous. Ce n'est pas une affaire qui est venue d'ailleurs. C'est une affaire de la base. Et ça, je crois que c'est pour cela qu'ils n'apprécient pas.
Mais lors de cette marche-là, le 16 février 92, il n'y avait pas que les chrétiens. Vous étiez accompagné des prêtres.
Je crois qu'on ne doit pas se limiter aux chrétiens et aux prêtres. Je dois quand même, je pense, ici dire que les comités laïcs de coordination fut un groupe écuménique. Attendez par là, il y avait les protestants, il y avait les musulmans, il y avait les kimbanguistes, il y avait tout ce monde-là.
Ok.
Donc c'est un groupe tout à fait écuménique. Et on s'était doté pour mission de sauvegarder dans notre société les valeurs fondamentales des droits de l'homme, telles qu'enseignées par l'Évangile et codifiées par la Charte universelle des droits de l'homme. Voilà. Et chaque fois que ces valeurs devaient être mises en danger, on devait interpeller la conscience collective. Ça, c'est ce que nous sommes mis l'idée dans la tête. Alors maintenant, on ne doit pas focaliser ça sur l'aspect curé. S'il est vrai, les plus grands apports ici et la partie la plus visible, c'est quand tous les abbés ont accepté de faire qu'une seule messe au lieu de deux ou trois. Et certains ont dit, je ne laisserai pas mes brebis seules, je vais les accompagner. Mais on n'a jamais demandé à un curé de prendre les fidèles et de dire suivez-moi. Ils l'ont fait parce qu'ils l'ont fait en toute responsabilité, parce qu'ils nous ont interpellés et ils ont dit nous avons interpellé la base a agi, nous ne pouvons pas laisser la base aller tout seul. Ils ont montré leur courage, ils ont montré qu'ils aimaient le peuple et qu'ils souffraient avec le peuple.
Mais est-ce que cette marche-là avait été autorisée?
On n'avait pas besoin d'autorisation, parce que vous le savez, madame, nous avons informé l'autorité urbaine de l'époque, c'était le gouverneur Kibao Madiata. Nous l'avons informé, nous avons fait notre devoir civique et citoyen d'informer l'autorité. C'était à l'autorité de prendre toutes les dispositions utiles pour nous encadrer.
Et donc vous n'aviez pas besoin de son autorisation, de son oui ou de son non?
Parce que je ne sais pas si vous pouvez me faire les tableaux entre un oppressé et un opprimé qui doit donner l'autorisation à qui. Toute la question est là. Nous, nous estimons que pour dire non à un ordre injuste de fermer la conférence nationale telle qu'il le disait eux-mêmes avec force, on n'avait pas besoin d'autorisation pour dire que nous ne sommes pas d'accord à cet ordre qui était injuste. On informe, ça s'arrête là. Et on nous empêche de marcher. On n'a pas les droits de nous empêcher de marcher.
Puisque vous n'aviez pas reçu l'autorisation, il faut que les choses se passent quand même dans l'ordre.
L'autorisation, mais quand vous voulez marcher pacifiquement, ça ne voulait pas dire que vous troublez l'ordre. La preuve, c'est qu'on n'a pas troublé l'ordre. Rien du tout.
Mais pourquoi elle avait été réprimée, la marche?
La marche était réprimée parce que c'était une marche qui mettait la rupture. La rupture avec un système. D'ailleurs, lui-même Mobutu s'en est rendu compte. Quand Mobutu a fait ce qu'on appelait à l'époque, il a fait une tournée à travers le pays, il appelait ça comment encore, j'ai oublié...
Les consultations populaires.
Quelque chose de ce genre-là, merci. Il s'est rendu compte que les systèmes, il n'y a plus rien qui fonctionnait dans cet état. Tous les Congolais étaient laissés sur le bord de la route. Il s'est rendu compte que les tissus économiques étaient en lambeaux. Les pouvoirs d'achat des Congolais étaient tirés verticalement vers les bas. Il n'y a rien qui marchait. Le chômage accru et la santé n'existaient même plus. Il s'est dit qu'il faut refonder la société. Il dit non. Et maintenant qu'on ouvre la conférence nationale pour trouver des solutions à cela, comme j'avais dit, vous sautez, vous dites, vous formez avec force. Ça n'avait pas de sens et nous, on ne pouvait pas accepter à cela. Et c'est comme ça que nous avons marché pour dire non. La conférence doit réouvrir.
Est-ce que vous avez atteint votre objectif?
On s'était assigné des objectifs à l'époque. La première, c'était la réouverture de la conférence nationale suivie des élections libres et honnêtes. Pour les premiers objectifs, on peut dire oui, parce qu'ils ont fini par réouvrir la conférence nationale. Mais je dois ajouter aussi que tout le monde sait comment ça s'est terminé. Pour le deuxième objectif, jusqu'à aujourd'hui, on parle encore des débats. L'eau continue à couler sur le pont. Concernant les élections justes et transparentes, équitables, en fait, les verbes ou les mots ne font que s'allonger.
Alors, M. Paul Médot, vous n'aviez pas eu des problèmes, vous n'avez pas été inquiété pendant que vous prépariez cette marche des chrétiens?
Pendant la préparation, non.
Mais c'est après la marche, avez eu des problèmes?
Après la marche, oui. Après la marche, il y a eu beaucoup de problèmes, surtout principalement les deux premiers signataires, c'est-à-dire que M. Pierre Lumbi et François Candolo, ils étaient bien obligés de vivre en clandestinité pendant un certain temps, parce que, pour ceux qui ne le savent pas, ça il faut le dire aussi, que il y avait ce qu'on appelait à l'époque les FIS. Autrement, c'est la force internationale, force spéciale d'intervention. C'était pilonné par M. Nguanda à l'époque. Autrement, on les appelait les hiboux dans la ville de Kinshasa qui était sur nos trousses, quoi.
Et vous étiez obligé de vous cacher, de vivre en clandestinité?
Les deux, comme j'ai dit, M. Pierre Lumbi.
Alors que vous étiez aussi parmi
Je n'étais pas encore signataire. On a ciblé les deux têtes qui avaient signé, M. François Candolo et Pierre Lumbi. Moi, j'ai signé les documents qui sont venus bien après, quand M. Lumbi était bien obligé de s'écarter un peu. Donc, j'ai commencé à signer avec François Candolo. À ce moment-là, mon rôle consistait à s'assurer de la protection de François, m'assurer que devant son bureau, il n'y a pas des éléments qui sont postés pour les cueillir, parce qu'on savait qu'ils étaient recherchés.
Et vous-même, qui assurez votre protection?
Ben, on s'assurait nous-mêmes notre protection.
Ce lundi 7 février, ça sera le 23e anniversaire de cette marche des chrétiens. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu par rapport à ça?
Chaque année, on essaye toujours de prévoir quelque chose. Cette fois-ci, nous avons fait des lettres à toutes les autorités. Mais je crois qu'il y a une petite activité, une conférence débat au niveau 13e rue avec M. Lajoué et Joson Pondou. L'année dernière, c'était à Notre-Dame, comme j'ai dit. Non, plutôt Fatima, comme j'ai dit. Et cette fois-ci, je crois que ça va être 13e rue.
Il y a toujours une polémique sur le bilan de cette répression. Est-ce que vous avez une idée du nombre des chrétiens ou des gens qui ont été tués lors de cette marche?
Il faut partir d'abord ce qui était reconnu officiellement. Le gouvernement a reconnu officiellement qu'il y avait 13 morts. Mais en réalité, le nombre de morts, personne ne le saura. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, nous avons affaire à ce qu'on appelait la garde civile, qui opérait avec des blindés et des jeeps de marque Corando. Ils avaient, entre autres, pour mission d'enlever le maximum possible des cadavres qu'ils pouvaient récupérer. Parce qu'il faut faire disparaître le maximum des cadavres pour que le bilan soit négligé ou tenu à la baisse. Et c'est comme ça que d'ailleurs, les quelques images qui existent des événements du 16 février, vous verrez qu'il y a des cadavres qui sont allongés à l'intérieur de l'église Saint-Joseph de Matongé. Parce que les fidèles ont empêché à ceux qu'on vienne récupérer ces corps. Et c'est comme ça qu'on les a rentrés à l'église. Mais il faut voir aussi qu'ils ont cherché à forcer la porte de l'église pour récupérer à tout prix ces cadavres-là. Et là, ils ont jeté des lacrymogènes, la porte était barricadée, ils ont abandonné. Donc le nombre exact, il n'y a que Dieu seul qui sait.
Vous-même, vous étiez à cette marche? Vous avez participé à la marche?
On s'était donné des missions bien précises et dangereuses à la fois. Parce qu'on avait prévu 3 points de ralliement. Moi, ce qui me concerne, je devais assister à Saint-Joseph. J'étais à Saint-Joseph. Mais notre point de ralliement, c'était le pont Kassavubu. Mais j'avais, entre autres, comme mission aussi de coordonner toutes les communications. Parce que les gens du comité qui devaient se trouver dans le point de ralliement, chacun avait un message qu'on avait déjà préparé à transmettre. On a mis un point de ralliement pour ce qu'on appelle Kinshasa S, c'était le pont Kassavubu. Ça, c'est centre. Kinshasa S, c'était Massina, Bekatef et Kartenjili. Et on avait enfin Kinshasa Ouest, c'était secteur de Saint-Cyprien, et c'était rond-point Gaba. Donc, j'avais comme pour mission d'avoir toutes les informations, de savoir que là-bas la marche est arrivée. À son terme, les messages ont été transférés aux fidèles. Et pour ça, on était équipé de ce qu'on appelait à l'époque ici communément Telecel, mais c'était la marque Motorola.
Donc, si je vous comprends bien, donc vous n'avez pas participé à la marche.
Je n'ai pas marché. Je n'avais pas le temps de marcher parce que tout simplement, je devais coordonner avec les hôpitaux. On avait disposé deux ambulances pour nous. On a disposé les Croix-Rouges pour nous. On a mis...
Qui avait disposé?
Un hôpital de la place de bonne volonté. Pour nous, on savait que dans cette marche-là, il peut y avoir des malades qui peuvent s'essouffler. Il faut bien des ambulances pour les évacuer. On a sollicité la Croix-Rouge. On pouvait dire qu'il y a des malades qui peuvent bien perdre connaissance pour la Croix-Rouge pour les réanimer. Voilà, pour nous, c'était ça. Donc, on a pris ces précautions d'usage et moi, j'étais chargé de coordonner tout ça.
Le 16 février 1992, la marche s'est terminée en débandade. Chacun courait dans sa direction.
Courir, je ne dirais pas qu'on courait chacun dans sa direction, mais c'était la débandade parce qu'à un moment donné, je parle pendant de ce que moi, j'ai vécu. Parce que je devais être à Saint-Joseph. Un autre membre du comité est rentré à l'église. Moi, quand j'ai vu les premiers blessés tomber devant Saint-Joseph, je suis retourné dans une formation médicale où je devais réquisitionner les ambulances à question pour redescendre vers le centre Victoire. Mais arrivé entre Éthiopie et les ronds-points Victoire, c'était noir des blindés de la garde civile, infranchissable. Mais je devais absolument, coûte que coûte, atteindre l'église Saint-Joseph. Là, à l'intérieur, je suis habillé avec une blouse blanche d'infirmier, mon appareil photo, et je me suis mis à mitrailler dans le sens de faire beaucoup de photos, des scènes qui m'ont beaucoup marqué, quand je voyais qu'on prenait nos abbés, sans ménagement, on les jetait dans des blindés de la garde civile, comme si c'était des vulgaires voleurs de poules, et ça m'a beaucoup marqué. Mais pour finir, malgré l'ambulance...
Et on ne vous a pas interpellé en vous voyant prendre des photos?
Ils ne voyaient pas. Je faisais ça à travers les pare-brises de l'ambulance. Moi, je suis derrière. L'ambulance, comme vous savez, c'est camouflé. Ouais. Voilà, quoi. Donc, ils ne savaient pas, ils ne voyaient pas. Pour atteindre Saint-Joseph, on a dû faire quelques mètres à pied. Et là, ça m'est suivi d'incompréhension, même avec l'ambulancier, parce que pour lui, et il avait tout à fait raison, il doit récupérer les blessés. Pour moi, je devais récupérer les morts. Parce que j'aurais appris qu'un de nous était tombé et qu'il était décédé, que son corps était à l'intérieur de l'église. De peur que les militaires viennent les récupérer, je tenais absolument à les récupérer. Mais malheureusement, c'était une fausse information. Et c'est comme ça qu'on fera demi-tour de nouveau pour amener les premiers blessés à la clinique Ngaliema. Et c'est là qu'on les a déposés. Et après, on s'est retrouvés tous hors batterie, malgré qu'on avait de batterie de réserve. C'était, disons, la débandade en quelque sorte.
Mais après cette marche, c'était quoi la suite des événements?
La suite des événements, c'est qu'on prévoyait de faire une deuxième marche pour le 1er mars, après le 16 février. Mais il y a eu beaucoup de pressions qui sont venues de tout le côté, un peu de partout. Et pour finir, nous avons désamorcé cette marche parce qu'on avait eu toutes les informations nécessaires que la conférence nationale souveraine allait être réouverte.
À un moment, vous m'avez parlé d'exil. Est-ce que votre exil a un rapport avec cette marche ou bien c'est dans un autre cadre?
Un peu tout ça. Moi, je suis quelqu'un qui se bat toujours pour les droits civiques. Donc, mais dans un pays comme le nôtre à l'époque, ici, à un moment donné, on disait qu'on était au front. À l'époque où, entre le moment où Mobutu a décrété le multipartisme et tout ce qui en est suivi, on disait qu'on était au front. Donc, c'était jamais facile pour quiconque qui élevait la voix contre le système. Mais moi, personnellement, l'exil, non, je ne l'ai pas fait, j'ai refusé. J'ai mis seulement ma famille à l'abri, c'est tout, je suis rentré ici.
Vous avez continué le combat. Pendant quelques temps, on ne vous a pas vu?
Mais non, je ne sais pas si 6 mois, 7 mois, on peut dire temps, le temps de trouver une maison, installer les gens, je ne sais pas. Bon.
Ben oui, 6 mois, 7 mois, ça vous met un peu en sécurité.
Ça ne m'a pas mis en sécurité parce que je suis rentré pendant la période chaude. Et je suis là, je ne pouvais pas abandonner les amis, ils avaient besoin de moi, j'avais besoin d'eux, on ne pouvait pas abandonner le combat. Voilà.
Monsieur Paul Nudo, la technique me signale qu'on a pris beaucoup de temps, nous sommes à la fin presque de notre entretien. Vous avez un message peut-être particulier adressé à tous ces auditeurs de Radio Okapi qui nous suivent en ce moment par rapport à cette date du 16 février, ce 23e anniversaire que nous allons commémorer ce 16 février 2015.
Je voudrais terminer là où je devais commencer en remerciant infiniment la Radio Okapi, qui est une radio de la paix, avec son professionnalisme, qui nous permet aujourd'hui encore de porter notre voix. Prier Dieu de tout cœur pour que ces techniciens, cette émission ainsi que l'animatrice aient longue vie.
Merci.
Mais je voudrais dire ceci à tous les Congolais, où qu'ils se soient. À Kongolo ou à Tchofa, que ça soit à Kinzanvwete ou je ne sais pas moi au Bulungu, que ça soit à Newcastle ou à Philadelphie, que ça soit à Mons ou à Bordeaux, partout où ils se trouvent, que nous devons toujours nous rappeler cette date. Nous devons nous rappeler que ces jours-là, nous avons oublié nos différences d'âge, de sexe, de tribu, de religion et d'idéologie, voire même des races. Nous avons marché comme un seul homme, solidaire dans la souffrance et dans la lutte pour la libération. Nous devons nous rappeler que ces jours-là, on n'avait pas d'autre arme que la croix, nos bibles, nos bougies et nos chansons d'espoir. Mais que ces jours-là, nous avons perdu nos frères, nos sœurs, nos amis. Ces jours-là, on nous a injuriés, ça que nous injurions à notre tour. On nous a frappé ça que nous frappons à notre tour. On nous a tué ça que nous tuons qui que ce soit. Alors, je voudrais dire à tous les Congolais que tous ces morts-là qui ont versé leur sang, devenant ainsi des martyrs de la démocratie, ne sont pas morts pour rien.
C'est le message que vous lancez à tous ces Congolais, avoir une pensée pieuse pour toutes ces personnes qui nous ont quittés ce 16 février 1992 à Kinshasa. C'était lors de la marche des chrétiens organisée par les laïcs. Je dirais pas catholique, hein, parce que vous me dites qu'il n'y avait pas que des catholiques, il y avait aussi des protestants, il y avait des musulmans. Il y avait,
par les comités laïcs de coordination.
Voilà, les comités laïcs de coordination. C'était un plaisir de vous recevoir dans cette émission, M. Mido, pour nous rappeler un peu ce qui s'était passé ce jour-là. Vous êtes un témoin privilégié. Vous étiez dans l'organisation, vous avez vu tout ce qui s'est passé. Merci d'être venu.
Merci beaucoup, madame.
Un grand témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que je recevais M. Paul Nudo en Ferré. Il est opérateur économique et un des organisateurs de la marche des chrétiens qui avait été réprimée en 1992 sous le régime du maréchal Mobutu. Merci à Dieudonné Nyangasa qui était à la prise de son au micro qu'elle écoutait. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radiocapi.net. Bon dimanche chez vous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.